Transcodeur Podcast, épisode 260. L'épisode généré par intelligence artificielle. Enregistré le 16 juillet 2021. Bonjour et bienvenue au Cascodeur, épisode de 260. Nous sommes en juillet, le printemps du 16 juillet.
Enfin, c'est plutôt l'automne, là.
C'est un beau mois de septembre. Très, très beau mois de septembre. je trouve ça pas mal.
Ouais. Il manque les feuilles mortes qui se ramassaient à la pelle.
Et... Ben non, là, il y a trop d'eau. Les feuilles mortes sont envolées, pas envolées, mais embarquées à la pelle. Voilà, bon bref, sinon ça va, et donc on va parler de news qui, si il y a un peu de Java, mais il n'y en a pas tant de grosses
news. Il y a vachement de Java, attends.
Non, quand même.
Ok, bon, on va voir qui a raison. Alors, le premier, donc on va parler langage, mais en fait c'est plutôt écosystème là.
Écosystème, ouais.
Ouais, c'est Adam Bean qui...
Il insiste à dire bien parce que c'est un nom français.
Ah, c'est vrai.
Et quand il vient en France, il dit Adam Bean. Alors en allemand, c'est Bean, mais c'est un nom français. Donc il a peut-être un arrière-arrière.
Adam Bean.
Huguenot et tout ça.
Adam Bean. fait les prédictions de mi-saison. Dis donc, on ne les connaissait pas, celle-là, mais...
Bah c'est... ouais, attends, t'as les précisions... Enfin, t'as les prévisions pour l'année prochaine, tout ça, mais là, ouais, mi-saison, c'est... Je sais pas, il y a le mercato, il y a quoi ?
C'est un peu ça, ouais. Bah en fait, c'est un peu... Il y a un petit côté de ça. Alors, c'est un mélange entre les observations et les prévisions, donc des fois, moi, je savais pas séparer... comment on appelle ça ?
Le grain de livret.
Le grain de livret, voilà. Bon, en tout cas, il dit, voilà, bon, Cube a gagné la guerre l'orchestration des containers. Et du coup, c'est devenu un standard dans les cloud-like environments, comme il dit. Et donc, tous les public cloud offrent des je sais pas pourquoi il dit des solutions alternatives, mais pour moi, c'est des solutions qui s'appuient sur Cube et qui sont un peu spécifiées, comme on fait une distribution, voilà. Parce que les alternatives, par exemple, Amazon a son container qui est pas Cube. Je connais pas les usages, mais en tout cas, on n'en entend pas beaucoup parler. Voilà. Et du coup, il dit un truc bizarre. La compatibilité devient moins cruciale que les containers en tant que tels. Voilà. Mais ça, j'ai pas trop.
C'est dans le sens que vu qu'on va vers du Kubernetes partout, du coup, c'est naturellement plus compatible par défaut. Donc, il y a moins de besoin de compatibilité vu qu'on standardise sur un truc qui est plus compatible. Je ne sais pas. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris, mais le de facto standard, donc plus compatible. Mais c'est vrai qu'après...
Allez, j'achète mon explication.
Ouais. Mais après, c'est vrai qu'il y a différentes couches ou surcouches qui, là, par contre, fatalement, ça ne va plus être compatible. Quoi.
Voilà. Donc... fonctions as a service, donc on a passé, enfin pour lui en gros on a passé la phase du hype, je sais pas si on est à la désillusion ou revenu sur la saturation, mais en gros il dit voilà, les gens commencent à bien comprendre les usages du function as a service par rapport à un abus du contrôle function as a service. Donc il dit les gens l'utilisent moins comme une solution générique pour tout faire, mais plutôt pour les approches event driven, donc les event listeners, ouais, les points d'intégration, etc. Là où c'est vraiment la fonctionnalité très intéressante des FAS, en tout cas, c'est pas canonique, mais la fonctionnalité phare, voilà, l'usage phare.
Ouais, phare ou FAS. Et c'est vrai que je le vois plus comme j'appelle ça moi le cloud glue, tu vois, de la colle pour lier un peu tout ensemble. Et aussi, ouais. Je suis d'accord avec lui sur l'aspect listener. Donc, tu disais event driven, ou dans le sens souvent, je veux dire, le FAS, t'as quand même des cold start, etc. Et du coup, c'est mieux pour des choses asynchrones qui n'ont pas forcément besoin d'être pile temps réel, quoi. Mais near real time, near proche temps réel.
Ouais. Ensuite, ils discutent du coût des clouds, puisqu'on entend parler du terme repatriation, c'est-à-dire ramener des workloads qui étaient dans le cloud vers des data centers. Perso, et donc lui il dit voilà, même les entreprises ennuyeuses de papa maman peuvent faire tourner leur solution de manière plus effective, efficace en termes de prix on-premise. Voilà, et que lifter, shifter des applications pour lui dans le cloud, voilà, les gens ne trouvent pas de bénéfices. Et pareil, le refactoring d'un monolithe en cloud native microservice, ça ramène de la complexité, ça, évidemment, sans valeur immédiate. Et du coup, pour lui, le monolithe revient comme une best practice. Donc là, il a séparé deux choses. Il y a le cloud versus la rapatriation et le monolith is back, baby.
Alors c'est après, d'ailleurs, il dit quand même... Après, il dit quand même que l'avantage du cloud, c'est tous les mails et un service qui sont hostés sur le cloud. Il parle de la reconnaissance vocale, etc., etc. Et c'est vrai qu'il parle de ce mode hybride où ton monolithe, il est chez toi, il est huilé aux petits oignons. Et puis, il invoque des services propres à des providers comme de l'intelligence artificielle. Donc voilà, il parle aussi de ce mode hybride où ton monolithe chez toi, ça fait sens plutôt que de l'avoir sur le cloud. Par contre, que toi, tu développes une solution d'intelligence artificielle, accroche-toi. Donc, utiliser les API du cloud et déployer tes services sur le cloud.
Alors, il y a Guillaume qui bougeait la tête, mais pas forcément super d'accord avec le début. Tu voulais commenter ?
Non, si, c'est vrai. Enfin, non, le seul commentaire que je voulais faire, c'était plus moi, je suis d'accord sur la partie. Alors, pas dire que le monolithe devienne best practice, mais dans le sens où tu sais, comme dès qu'il y a une nouvelle, alors pas forcément pattern ou techno, ça peut être différentes choses, mais on en abuse toujours avant de trouver le juste milieu. Et là, clairement, bah oui, peut-être que. Donc ce que je veux dire de faire que des microservices de partout, c'est idiot, c'est coûteux, beaucoup plus de latence réseau parce qu'il va falloir qu'ils communiquent, etc. C'est un extrême. Après, enfin juste un monolithe, bah il y a l'interview là qu'on fait avec David Gageot sur Doctolib d'ailleurs qui parle de monolithe aussi.
Ou c'est un monolithe.
C'est un monolithe Doctolib. Mais voilà, on va trouver le juste milieu où effectivement tout ce qui peut être sur un monolithe qui a pas forcément besoin d'être coupé en petits morceaux parce que c'est la mode, bah oui, autant que ça reste ensemble, plus facile à réaliser, etc. Donc je suis d'accord avec ça.
Il y a même le pattern du Majestic Modular Monolith où on fait des monolithes bien maintenant.
Ouais.
Majestic Monolith.
Ouais.
Modulaire en tout cas.
Et l'idée, c'est quoi? Qu'ils peuvent déployer, faire une release sans infecter l'autre, même si ça reste un monolithe? Parce que sinon, j'ai l'impression que c'est juste, tu payes le coût du microservice sans avoir l'avantage, mais bon.
Non, le Majestic monolithe, c'est un pattern, enfin, c'est même pas un pattern, hein, c'est un truc qui te dit, ton monolithe, tu peux bien le faire ou mal le faire. C'est vrai que, comme dit Guillaume, il y a eu tout cet effet de mode qui dit les microservices c'est toujours bien et les monolithes c'est toujours mal, alors que non, il y a des monolithes bien faits et il y a des microservices mal faits. Et en plus, là, je viens de quitter une mission où il y a l'anti-pattern par excellence et tout le monde en parle depuis 5 ans et je l'ai vécu, où c'était un projet from scratch. Et les gars, ils ont donc architecturé le truc et ils ont dit il y aura 7 microservices. Alors en plus, je crois que c'était aux alentours de 7, 8, 9. Et moi, je suis arrivé au milieu fin du projet et les gars, ils se disaient qu'ils avaient deux microservices qui, au fur et à mesure, d'un point de vue métier, font presque la même chose. Donc ils n'arrêtent pas de s'appeler, ils n'arrêtent pas de dupliquer du code et ils se disaient en fait, il faudrait le merger. Et c'est vrai que les microservices, ça marche bien lorsque tu as un monolithe, que tu connais ton métier et que tu connais suffisamment le métier pour te dire, pour gagner en scalabilité, etc., etc., je vais le découper comme ça. Mais quand tu n'as pas de métier, punaise, tu pars d'une page blanche et tu commences avec ta page blanche en découpant en 8 bouts, tu te mets déjà une grosse contrainte alors que tu n'as même pas une ligne de code, quoi. Ouais, et donc moi je suis tombé, le projet était pas vieux, hein, il avait moins d'un an et les gars se disaient là c'est pénible et s'ils ont mergé pour moi, et puis après je suis parti, je suis pas sûr qu'ils l'aient fait, mais bref.
D'accord. Après, il faut rester flexible, en fait, parce que si t'es pas flexible, enfin, c'est fait pour gagner de l'agilité, de la flexibilité et de sentir moins, comment on appelle ça, disons moins embêté d'avoir à réécrire, en fait, parce que c'est un plus petit morceau. Donc après, il faut quand même utiliser cette flexibilité. Voilà, sinon, serverless, c'est la nouvelle tendance des années 2021, de l'année 2021. Donc, on connaît serverless pour les fonctions, que ce soit Lambda, Cloud Function, etc. Et puis, là, il dit, mais non, mais il y a aussi le serverless container, les bases de données serverless, les workflows for serverless, les serveurs serverless, etc., etc. Et donc, l'idée, c'est, ça redémont à zéro et surtout, enfin, en gros, plutôt business-wise, on arrête de payer la ressource quand on ne l'utilise pas. Voilà.
Parce qu'après, c'est un peu aussi une approche du pricing, finalement, parce que même des choses absolument. Qui ne sont pas derrière, côté implémentation, détails techniques, peut-être qu'il y a toujours des choses qui tournent de toute façon chez les providers. Mais après, tu peux biller, tu peux faire facturer et dire, bah, là, tu n'utilises pas, ça te coûte zéro. Voilà.
Ouais.
De toute façon.
Donc, il parle aussi de la montée des frameworks de nouvelle génération de type Micronoc et Quarkus, donc de build time development. Il explique que la popularité de Quarkus a explosé. Pour lui, il est difficile de trouver un développeur qui n'a pas au moins expérimenté, essayé de voir. Parce qu'il y a le cocktail GraalVM, intégration avec GraalVM, les API familières, certaines de Jakarta AI, certaines de MicroProfil, etc. Le temps de mémoire, le temps de démarrage qui donne un avantage certains, et il dit attention, la compétition ne dort pas, Micronaut notamment, et il estime qu'Elidon va essayer de rattraper son retard en empruntant de Micronaut. Voilà. Moi, le langage alternatif, parce que Java réalise tous les 6 mois nouvelles fonctionnalités, et du coup, il estime qu'un pont, le Java va rattraper, enfin, la différence entre un nouveau langage et Java va pas être assez important pour lui.
C'est vrai qu'on l'oublie maintenant, mais on est passé d'une release tous les 3 ans à une release tous les 6 mois. Donc, c'est vrai que ça va vachement vite.
On n'arrive plus à suivre.
Ouais. Ouais.
Ça nous fait
on
de la
se plaint que c'est trop lent et après on va se plaindre que c'est trop rapide. Alors, on est bien français, nous. Hein. Mais non, jamais content.
Après, moi, je vois mes clients et c'est vrai que je fais le grand écart, hein, mais mes clients, bah, beaucoup, ils sont encore en Java 8. Ouais, donc, oui, je parle, tu vois. Ouais. Ah oui, c'est vrai.
Alors, je ne suis pas d'accord avec ça, mais alors, non pas que j'étais nécessairement d'accord avec ce qui était au-dessus, mais Longbok sera moins populaire parce que Java Records, qui réplique les fonctionnalités.
Enfin, ça raccourcit. Longbok, ça ne fait pas que de générer des getters et des setters aussi. Hein.
Ouais, donc, un déjà. Java Records, ce n'est pas un Java Bean.
Et ça ne se modifie pas. C'est vrai.
Alors, je ne suis pas 100% d'accord. Enfin, du tout d'accord même. Voilà, Kafka sera mieux compris. Du coup, au lieu d'utiliser comme un remplacement à une implémentation JMS, on va l'utiliser comme un data store immuable et la source of truth, comme on dit, la source de vérité. C'est plus joli d'ailleurs en français. C'est la source de vérité. Voilà, Kafka est réactive, la combo du moment qui va rendre la programmation réactive. Ça y est, elle va devenir populaire.
Depuis le temps. Mais,
c'est un peu cette idée de... En fait, je pense qu'il mélange deux choses. Il y a le langage, enfin, le fonctionnalité de langage, donc la programmation réactive avec les systèmes réactifs.
Oui. Ouais.
Je pense que Kafka, il amène une brique absolument importante dans la notion de système réactif. Pas obligé d'utiliser la programmation réactive dans un système réactif et vice-versa, mais effectivement, il y a des ponts et des alignements.
Oui, puisque juste après, il dit que le projet Loom éliminera la programmation réactive.
Oui, mais pour les ressources non réactives, donc je ne sais pas compris ce qu'il a dit.
Pardon ?
Il dit, qu'est-ce qu'il a dit exactement ? Parce que j'en ai sauté quelques-unes. Il dit, le projet Loom va éliminer la programmation réactive, les constructions de programmation réactive pour les ressources non réactives.
Est-ce que c'est le wrapping c'est peut-être le wrapping de trucs bloquants, non réactifs en quelque chose de réactif mais qui n'est pas vraiment réactif, non ? C'est ça ou,
oui, peut-être.
Je ne suis pas sûr du...
Ah oui, tu veux dire que ça va permettre de réactiver des choses qui sont bloquantes parce qu'en dessous, la VM va non bloquiser.
Ouais, peut-être. Okay. Je ne sais pas, je ne suis pas sûr à 100% de ce qu'il a voulu dire.
ARM sur le serveur.
Ah ouais, il y en a de plus en plus, hein, des clouds de partout qui ont du ARM. Grosse tendance, ça. Hein.
Kral VM. D'ailleurs, on n'a pas entendu parler des cloud providers qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont plus de CPU, parce que c'est la dèche en ce moment-là. Ça serait intéressant de voir s'il y a une réalité derrière.
Ben, j'en entends pas trop parler, moi, en interne, mais je devrais peut-être pas le dire. Donc, peut-être qu'on arrive à s'approvisionner.
Non, parce qu'ils ont racheté ils ont racheté plein de sable et ils reconstruisent à partir
de... Non, mais c'est vrai que, enfin, je me souviens de certaines époques où il y avait eu des grosses pénuries de RAM, etc. Et je le voyais passer en interne, ces détails-là. Et là, par exemple, sur ce qui est processeur, RAM, etc., j'en entends pas trop parler.
Parce qu'on le voit dans jusque dans l'automobile, en fait.
À l'automobile.
Là, ils avaient son petit capteur LCD, bah tu l'auras plus.
Ah, merde. Ouais, on raconte. Bah, moi, j'ai changé de voiture, donc j'ai pris une Peugeot. Et en fait, donc là, j'ai le super écran, LED, machin, tout ça. Et en fait, si j'avais pris la voiture, genre un mois après, et je revenais avec les compteurs analogiques classiques.
C'est ça, ils
mais
ont
par
fait
contre,
un backup.
J'ai demandé, genre, je voulais accrocher d'attelage et tout. Il faut un faisceau pour, c'est pour l'électronique, les câbles et tout ça.
Pour les lumières derrière.
Hein. Voilà, pour les lumières derrière. Et ça fait genre 2 mois que j'attends juste le faisceau, alors qu'il ne doit pas y avoir énormément d'électronique quand même dedans, là-dedans. Mais ça a l'air d'être horrible pour s'approvisionner en tout et n'importe quoi. Même peut-être en fil électrique, je ne sais pas.
Ouais.
C'est fou.
Allez, on va accélérer un peu parce que sinon on va passer l'épisode sur Adam.
Sur Adam.
Bah Adam, s'il veut Adam bien ou Adam Bean, hein, pour le moment, faut
être cohérent.
Kral VM, lui dit ouais, c'est bon, native ok, mais il y a aussi qui peut remplacer OpenJDK. Enfin, en vrai, c'est Kral VM s'appuie sur OpenJDK pour faire une JVM entière, car rapide, multilangage. Et lui, il dit moi, je vois bien des compétiteurs à Kral VM arriver. Alors, il a peut-être un inside scoop. Moi, je ne l'ai pas vu.
Ouais, j'ai des doutes.
Ouais. Visual Studio Code et ses fonctionnalités pour Java ne sont pas forcément connues. Donc, il estime qu'il y a encore un espace de croissance pour des gens qui passeraient à Visual Studio. On en parlera après, mais les gens ne sont pas forcément fidèles à leur IDE. Et puis, il parle de Payara Cloud qui fait du serverless server, justement. Où l'app server en fait est un opérateur cube qui déploie les jars, voilà. Donc bon, concept intéressant quand on réfléchit. L'app server était déjà le cube node en fait, le worker type. Hein. Mais voilà, la vie, c'est la vie.
Il a mal été brandé.
Ouais. Ensuite, GraalVM, l'équipe offre des plugins Gradle et Maven pour la compilation native.
Ça, ils ont l'air d'avoir pas mal bossé aussi avec Graham Rocher, etc., là, avec l'équipe Micronautes en interne. Donc, c'est cool qu'ils aient pu extraire quelque chose qui était spécifique à un framework et le rendre utile dans d'autres contextes à tout le monde et généraliser. Ça, je trouve ça super génial.
D'ailleurs, Quarkus, news,
et
Cédric.
Pour Quarkus, ouais, sans doute.
Et Cédric
Champeau,
ouais. Cédric est allé du coup dans l'équipe Micronautes justement pour travailler sur les outils.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Et donc, qu'est-ce que il s'arrache les cheveux sur Maven.
Ah ouais.
Donc bon.
Donc ça permet de tester les librairies en natif avec les tests Unit 5 qui tournent en natif. Donc ça compile le test, vos tests unitaires, ça les fait tourner en natif, ça ressort tout. Donc ça permet de vérifier en gros que le code des tests unitaires et compilables en natif, en fait. Voilà. Voilà, il y a un plugin Gradle aussi. Et puis, c'est en licence Oracle Universal Permissive License, que je ne connaissais pas.
Y a un loup, quand même, là-dessous. L-O-U-P.
Ouais, vas-y.
Mais non, L-O-U-P, l'acronyme.
Licence Oracle, pas mal.
Licence Oracle Universal Permissive.
Ouais. Pas mal.
Et donc, visiblement, il y a un truc qui s'appelle Universal Permissive License, qui est un peu une MIT avec un peu plus de choses de ce que j'ai vaguement lu. Donc, je ne suis pas un avocat et en plus, j'ai lu ça très rapidement, mais je pense que c'est un dérivatif de ça. Voilà. Ensuite, on parlait des prévisions d'Adam, mais il y a des gens qui ont fait des stats et des gens de Sneak qui ont fait ça. Quelqu'un veut prendre ? Sur le rapport sur l'écosystème de la JVM.
Ouais, Sneak, et ils l'ont pas fait tout seul. En plus, ils l'ont fait avec Flute, j'ai oublié le nom.
Flutter.
Donc, c'est un sondage qu'ils ont fait. Non, mais ils l'ont fait avec quelqu'un d'autre. Bref, ils ont fait un sondage sur 6 semaines. entre février et mars cette année, auprès de 2000 devs. Et
a priori, c'est Macron qui repasse.
Et ils ont quand même comparé ce sondage-là avec plein de données sur GitHub et Google Trends. Donc, c'est un sondage, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais effectivement, il y a 44% des devs Java qui utilisent Adopt JDK en prod. 28% Oracle Open JDK et 23% Oracle JDK. Après, on en parlait tout à l'heure avant que je spoil. Il y aurait 60% des devs Java qui utilisent Java 11. Et il y a 60% aussi qui utilisent Java 8 en prod. Ouais. C'est rigolo de voir qu'il y a cette tendance LTS en fait, hein, Java 8, Java 11. Est-ce que le prochain sera Java 17? Bref, à voir.
Ouais.
Pour les langages, c'est ce qu'on disait avec Adam Bian, là, les langages alternatifs. Bon, clairement, c'est les développeurs Java. Donc, 91% font du Java. Mais il y en a quand même 18% qui font du Kotlin. Donc, Kotlin, c'est vraiment le langage qui monte en ce moment. Hein. Groovy 13% et Scala 10%. Donc je sais pas quel était le pourcentage de Scala il y a 3-4 ans. 10%, je pensais que Scala ça faisait plus 10%, en fait.
Moi. C'est pour ça que pour moi il y a quand même dû y avoir un biais dans qui a répondu, parce que je trouve que c'est assez haut par rapport à d'autres stats qu'on a pu voir plus globalement.
Même Kotlin, hein, c'est surtout quand même adopté par les développeurs Android. Il n'y en a pas tant que ça quand même côté serveur. Hein.
Alors justement, le projet dont je parlais là il y a 10 minutes, il y avait 80% c'était Quarkus Kotlin et 20% c'était Quarkus Java. Ouais. Ouais.
Ok, bon.
Ça m'a permis de regarder du code Kotlin. En plus, ils faisaient du Kotlin et du RX. Il y avait 3-4 trucs qui piquaient un peu quand même. Bon. Après, niveau IDE, IntelliJ number one avec 70%. Et Eclipse et VS Code au coude à coude. Eclipse 25% et VS Code 23%. VS Code dépassera peut-être Eclipse, hein, je sais pas.
Ouais. C'est bien parti pour.
À ce niveau-là, ouais.
Et surtout, la moitié des gens sont bi-amoureux en IDE. Ils sont multi-amoureux, polyamoureux en IDE. Ah ouais. Et parce qu'il y avait même du Vim, je me rappelle plus, Vim VI qui était à 10-15% quand même. Ouais. Tu vois, donc
c'est... Moi, c'est vrai que j'utilise quand même VS Code et IntelliJ, et en ce moment, plus VS Code finalement. Parce que je fais un peu différents langages, du Node, tout ça. Et
ouais.
Du coup, VS Code, c'est pas trop mal. Mais bon, après, si je veux faire un, entre guillemets, vrai projet sérieux, je sais que j'aurai quand même un meilleur support dans IntelliJ, malgré tout. Donc, si tu veux faire du décro refactoring, des trucs comme ça, je fais quand même plus confiance à IntelliJ que le reste. Même s'il y a des équipes très bien chez Red Hat hein, qui bossent sur le support Java dans VS Code, hein. Je ne critique pas. Mais...
Non, moi j'ai pas de chapelle.
Après, les outils de build, Maven 76% et Gradle 38%. J'étais surpris de voir qu'il y avait encore des gens qui utilisaient Ant 12%. Il y a encore un peu d'SBT et des trucs comme ça. Mais...
Du Legacy.
Mais 12% Ant, ouais, ça me paraît énorme pour le coup, là. Bon, bref.
Du bon vieux Legacy.
Ouais, je leur dis, c'est bien.
Le XML, c'est bien.
Oh, Maven, ça reste Maven, XML. Hein.
C'est vrai, c'est vrai.
Et puis après, sur les frameworks, bien sûr, Spring Boot devant, avec ses 58%. Spring MVC, c'est 29%. Donc, voilà, vous avez Spring. Jakarta EE, 13%. Rest in peace. Quarkus, 11%. Ça monte.
C'est étonnant, Spring Boot, 58%. Mais peut-être ça veut dire qu'il y a pas mal de dev Android, là, tu vois, dans ce rapport.
Ah. Parce que toi, tu t'attendais à ce que ce soit plus.
Ouais, moi, je m'attendais à ça.
Ah, ouais, ok.
Surtout que c'est du poly-usage, hein.
Spring Boot, Spring MVC, Spring. Enfin, je pense qu'il y a un moment donné aussi, les gens mélangent peut-être un peu.
Ouais.
Bah ouais, par exemple là, l'été est mélangé au printemps, donc c'est exactement
ça donne l'automne, tout à fait.
Voilà. C'est ça.
Allez,
bon,
JDK
voilà pour
17,
le petit ouais, rapport voilà. De Sneak, voilà.
Ouais. JDK 17 en phase descendante, phase 2. Ça veut dire qu'ils sont en train de serrer les boulons.
15 juillet, phase 2. 5 août, initial RC. 19 août, final RC. 14 septembre, GA. Voilà, donc le 14 septembre, vous aurez un JDK 17 en général availability. Ouais, voici les floating points. C'est pour tout ce qui est float. Donc, il y aura le mode strict par défaut. C'était rigolo aussi de voir qu'il y a une gemme sur les nombres aléatoires. Et aujourd'hui, le mat random là, ou le random utilise un seul algorithme, et donc ils vont améliorer l'API pour pouvoir plugger différents algorithmes de génération de nombres aléatoires.
Mais d'ailleurs, à chaque fois que tu lis ce JEP, son numéro change automatiquement. C'est pas toujours JEP 356.
Je crois qu'il y en avait déjà plusieurs, hein, les implémentations de...
Bah, il me semblait qu'il y avait au moins deux. Enfin, genre,
ouais, exactement.
Malheureusement, et puis après celle de crypto.
Mais là, ça sera voilà. plus ouvert.
Encore
plus. Alors, ça coûte de créer de l'entropie, en fait. C'est pour ça
ils vont refactorer ça pour qu'on puisse plugger d'autres algos. Mais ils disent bien qu'ils vont pas en créer 26 000. Hein. Ouais. Donc c'est les API, mais après il faudra les implémenter s'il y a des spécificités. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors ils vont déprécier. Ah oui non, ils vont supprimer. Alors attention, Java supprime des API et ils vont supprimer. Attention, les API Applet.
Oh.
Elles étaient dépréciées depuis Java 9 ou 10, je crois. Et donc là ils vont les supprimer vraiment. Ils vont rendre, vous savez là, depuis que le JDK est un peu découpé, vous avez le module interne, et donc celui-là ils vont l'encapsuler d'autant plus pour que vraiment on puisse pas utiliser les API internes du JDK,
ouais.
sauf pour la fameuse unsafe.
Ouais.
Donc, vous savez, là, il y a eu 5 ou 6 ans, là, il y a eu plein de débats sur la sun.misc.unsafe. Ouais. Elle continuera à être utilisable. Voilà. Il y aura le pattern matching dans JDK.
Toujours en preview.
Ouais, toujours en preview. Oui, c'est vrai. Dans JDK 17.
Oh putain, RMI, il l'enlève.
Non, donc non. RMI, activation. C'est juste un sous-ensemble de RMI. Il garde RMI. Mais il supprime RMI activation.
Ouais, parce que moi, je veux garder RMI Forax. Hein. Il est trop bien. Hein. Surtout quand il répond sur les mailing lists des casse-codeurs.
Parce que là, ils disent que RMI, il est obsolète. Et...
non, mais c'est quand il n'est pas actif. Non, je ne sais pas. L'activation du RMI.
Il faut activer RMI.
Alors, il y aura les sealed classes dans JDK 17. On en a beaucoup parlé. Voilà, ils vont déprécier des API de sécurité. Il y aura l'API Vector, mais pas celle du JDK 1.0, l'autre. Et puis voilà, il y aura des petites choses comme ça. Donc le 14 septembre va arriver du JDK 17.
Cool. Voilà. Il y a l'API de Vector, des foreign dont on a discuté dans le grand épisode sur Java 16. Voilà, on va passer aux librairies Spring Native 0.10. 0.10.0 est sorti, donc l'équipe Spring a aussi bossé, et pas que l'équipe Micronaut, là, sur échanger pour justement généraliser le framework Maven et Gradle de compilation native. Donc, ils utilisent ces fameux tests qui compilent tout. Et puis, il y a un truc que j'ai pas compris, mais c'est le ahead of time proxies pour les classes. Donc, je sais pas exactement. Peut-être qu'ils le faisaient que pour les interfaces jusqu'à présent, et donc maintenant, ils le font aussi pour les classes. Voilà. En fait, la compilation native, c'est un peu bourrin, en fait, moi, je trouve, la compilation native de tous tes tests en native. Parce qu'en fait, en vrai, tu veux pas que tes tests fassent partie de ta compilation native, parce que ça fait un truc plus gros, ça charge plus de choses. Et puis, ça prend pas mal de temps, parce qu'il faut la créer, cette image, et ça prend plusieurs minutes.
Ah, c'est long.
Donc, je pense que ça peut être intéressant pour des librairies en tant qu'étape 1 de dire, bourrin, je vais vérifier que mon code fonctionne en natif. Par contre, s'il fonctionne pas, il y aura peut-être plein d'impacts, des choses qui sont pas vraiment utiles à faire fonctionner en natif, mais qui seront touchées par votre suite de tests. Mais c'est une première étape pour, je pense que c'est une bonne idée pour dire, voilà, nous, l'écosystème, on veut qu'il avance. Donc, voilà, on offre un outil qui est un peu bourrin, mais au moins qui permet aux gens d'avancer et de tester. Voilà, après, je pense que pour vraiment tirer l'avantage de la compilation native, il faut aller vachement plus, plus grain, plus, un grain plus fin, en fait. Voilà. Donc, en parlant de natif, Quarkus 2.0 est sorti. On en avait déjà parlé un petit peu, donc je vais aller un peu plus vite. Mais donc, il y a un guide de migration, même si en gros les applis devraient peu être impactées. C'est plutôt les extensions, les gens qui écrivent les extensions qui sont impactés. JDK 11 minimum. Je crois que ça marche sur 8, mais c'est plus supporté. GraalVM 21.1. On en avait parlé, mais ça a été réécrit sur Vertex 4, donc un moteur nouvelle génération. Là où ça peut vous impacter, c'est que c'est MicroProfile 4. Je vous avoue que j'ai pas regardé le détail, mais il y a peut-être des API qui ont évolué. Une fonctionnalité intéressante de test en continu. Donc, vous vous rappelez peut-être InfiniTest de nos amis de David Gageot notamment qui y participait. Mais donc là, il n'y a pas d'IDE, c'est vraiment dans le mode Quarkus Dev qui fait ce boulot. Et donc, quand on fait un changement qui casse un test, en fait, l'outil va vérifier, va faire retourner que les tests qui sont potentiellement impactés et vérifie si c'est cassé ou pas. Donc, voilà, usage en continu. Quarkus a une CLI, donc comme Micronaut dès le début en avait une, mais là Quarkus AI en a une pour simplifier l'interaction versus utiliser Maven, Quarkus 2.dev ou voilà, il y a souvent des notations qui deviennent un peu complexes quand on utilise surtout Maven d'ailleurs plutôt qu'un dev. Mais et puis la création de projet qui du coup ne nécessite pas d'avoir déjà Maven etc. Donc petite amélioration autour de ça. GraphQL client qui a été rajouté de SmallRail et puis les décorateurs CDI sont supportés et les transactions pour MongoDB avec Panache. Et puis le support Kotlin s'est amélioré aussi avec le support des coroutines avec Reactive REST Easy, REST Client, Reactive Messaging Extension, enfin ces extensions-là. Et puis il y a un truc qui s'appelle Amazon Service System Manager qui est en gros l'API pour manager Amazon, en fait, enfin AWS. Et du coup, voilà, il y a quelqu'un qui avait un besoin, qui a créé une extension et qui l'a partagé dans le Quarkiverse, comme on dit. Voilà. Ensuite, quelque chose sur les...
Ah oui, c'est Arnaud. J'ai lu le blog. Alors, c'est notre ami Almirail qui a créé un outil qui s'appelle JReleaser.
Ouais.
Et je suis allé voir vite fait, et cet outil, il permet de prendre une application Java. Alors, comme il dit, ça fonctionne bien pour tout ce qui est CLI. Donc, vous avez une application Java en ligne de commande, et vous voulez la rendre dispo sur Homebrew, Snapcraft, etc. Donc, ce petit outil là, JReleaser, il fait ça. Il vous permet, donc il s'est inspiré de GoReleaser, et donc vous avez votre appli Java, et vous utilisez JReleaser pour releaser votre appli sur plein de, même en image Docker et des choses comme ça. Et là, ce blog-là, qui s'appelle Crafting Rolling Release pour Quarkus, il prend un outil qui s'appelle kubectl, enfin cctl, que Gunnar a créé. C'est une ligne de commande pour kube. Et justement, il explique.
C'est pour comment ça s'appelle, Kafka Connect, non?
Kafka Connect, pardon. Kafka Connect. Et donc il prend cet outil-là. Et il le configure, enfin il configure JReleaser pour pouvoir builder, viriliser cet outil sur différentes plateformes. Donc c'est un cas d'utilisation intéressant. Le blog, il va vraiment step by step. En plus, il met les GitHub actions, dessus. Donc voilà, vous voyez comment il configure l'outil pour que il prenne votre code Java et le build et le déploie sur toutes ces différentes plateformes. Voilà, il y a pas mal de confs pour que ça marche et sur Windows et sur Linux et sur Mac. Bon, il y a pas mal de confs, il explique bien tout. Voilà, si ça vous intéresse, si c'est une problématique que vous avez, jetez un œil à JReleaser et à ce blog.
Alors, c'est le truc assez cool avec GitHub Action, c'est qu'effectivement, on réagit d'un tag et puis hop, on peut lancer ces containers, en gros, ces actions. Et donc, faites attention juste, le prix Windows et le prix macOS par rapport au prix d'un Linux, c'est pas le même, c'est x2 ou x10. Enfin, il y a des coûts de la minute à la minute qui sont pas les mêmes. Donc vous avez 2000 minutes gratuites, mais la minute Mac, c'est pas le même prix que la minute Windows, Linux. Donc, mais si vous voulez faire un déploiement de votre CLI et la faire compiler en natif sur chacune des plateformes, vous devez passer par là. Voilà. Mais du coup, ça simplifie pas mal de choses si on veut le faire tourner en multiplateforme assez vite. Ça va vous accélérer les choses. Allez, on va passer à l'infrastructure-ish. Je savais pas trop où le mettre, en fait, ça, pour être très honnête. Amazon sort, donc vous vous rappelez, Elasticsearch, Amazon, ils ont sorti Fork. Les katanas.
Voilà. Fork.
C'était même pas le Mexican standoff, c'était plutôt la grosse baston Astérix. Sans le banquet final à la fin. Et donc, pour l'instant, en tout cas, Amazon sort son OpenSearch 1.0 et OpenSearch Dashboard. Donc, OpenSearch, c'est en gros Elasticsearch. Et OpenSearch Dashboard, c'est en gros Kibana. Donc, c'est leur fork. Donc, la 1.0 est sortie après l'annonce de cette communauté officielle. Ils ont continué à travailler à la suppression du code propriétaire. Ils ont pas mal travaillé à ce que la mise à jour, en gros, vers OpenSearch soit aussi simple qu'une mise à jour d'une nouvelle version Elasticsearch et Kibana. Donc, bon, après, pour l'instant, le fork, il est faible, hein, donc c'est d'autant plus facile. Pas mal de travaux sur la compatibilité avec les outils existants donc et dans le futur pour éviter de casser les choses d'une version à l'autre. Il y a pas mal d'outils maintenant qui s'appuient sur les API Elasticsearch ou Kibana. Pas mal de travail autour de l'infrastructure de test pour, en fait, ils payent la dette technique maintenant pour pouvoir après avoir une vélocité, en fait. C'était un peu l'idée. Support de Linux ARM 64. On n'en a pas parlé, mais ARM, ça fait partie du Java 17. Support de ARM dans Windows, je crois, de mémoire. J'ai pas trop compris ça, mais ils ont visiblement de quoi embarquer OpenSearch et OpenSearch Dashboard dans les produits et des services existants avec des artefacts minimum vaguement embedded. Alors, je sais pas si ça veut dire que les produits, il faut qu'ils soient écrits en Java ou pas. J'ai pas zoomé là-dessus, mais si vous avez l'intention d'embarquer OpenSearch, il y a peut-être quelque chose à creuser là. Voilà, le support des data streams pour les dashboards de OpenSearch. Dur à pas dire Kibana. Hein. bon, et d'autres choses que je comprends pas trop, donc je vais pas les dire. Mais en gros, ils mentionnent un peu leur roadmap aussi. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent faire à partir de maintenant que la 1.0 est sortie. Donc, si ça vous intéresse, je vous encourage à aller sur le lien pour zoomer un petit peu.
Et c'est des licences Apache, là, j'étais en train de voir parce que oui. J'avais oublié, mais c'est des licences Apache 2.
Ouais.
Les deux produits, voilà.
Avec le droit d'utiliser le nom pour faire des carottes, enfin tout ce qu'on veut. C'était l'autre truc, c'est que le trademark est abusable.
En plus, c'est vrai qu'on vient du monde LK, etc. Mais OpenSearch, je trouve que c'est beau comme terme. OpenSearch, OpenSearch Dashboard.
C'est un peu joli. Reuse aussi, hein, parce que c'est des trucs qui existaient déjà. OpenSearch, c'était un standard pour les moteurs de recherche dans les navigateurs et autres. Ça a été réutilisé plusieurs fois. Un peu passe-partout quand même.
Pourquoi passe-partout, il a été réutilisé?
Arrête, ma fille de 8 ans, elle est fan de Fort Boyard.
C'est vrai? Ça existe encore? Ça tourne encore ou elle regarde les anciennes saisons?
Alors, tous les samedis.
On voit que c'était le truc de l'été, ouais, je me rappelle.
Ah ouais, ouais.
De l'automne, on a dit, de l'automne.
Ah oui, c'est pardon. Kubernetes 1.22. Alors, on va pas aller dans le détail de tout ce qu'il y a de nouveau, mais il y a un truc important, c'est que les vieilles versions des ressources, notamment les bêta ceci, les bêta cela, voilà, ça fait 3 ans qu'ils annonçaient qu'il fallait passer à la version non bêta. Et donc, la release est prévue en août. Et ces API ne vont pas être dépréciées, mais ça y est, elles sont dépréciées depuis 3 ans. Donc maintenant, elles vont être supprimées. Donc, mettez à jour déjà, parce que sinon, vous allez avoir une mauvaise surprise. Et puis, ce que je vous recommande aussi, je sais que c'est difficile, mais de se prévoir son budget de mise à jour. Il y a peut-être le premier mardi du mois où on fait la mise à jour de toutes nos dépendances. Et ça vaut le coup de faire ces petites mises à jour à chaque nouvelle version incrémentale plutôt que de se taper tous les 3 ans un Big Bang et de devoir demander un budget, de bloquer pendant 6 mois les devs. Moi, je sais que c'est pas facile à vendre parce que ça n'amène pas de métier, mais je pense qu'avec les angles de sécurité, la dynamique de tous ces trucs qui sortent quand même en gros tous les 6 mois au max, ça vaut le coup de payer régulièrement sa dette plutôt que de se retrouver face à un mur. Voilà. Alors, je sais pas, ça serait intéressant de trouver d'avoir une interview pour essayer de voilà, quels sont les arguments pour convaincre les lignes de métier.
Ouais.
Voilà, ensuite on va passer au cloud. Donc on savait que le cloud c'était fake.
Là, c'est sûr.
Non, là il y a un truc, c'était bizarre, je sais pas trop d'où ça vient. Enfin bref, il y a un gars qui dit bon, regarde, je vais prouver que en fait la plupart des devs ils n'entendent parler des technologies que dans un tweet et que après ça fait tout un vent pour rien. OK. Donc il s'est dit je vais faire un faux site web, un truc qui s'appelle AWS Infinity Dash. Et puis, je vais le lancer en tweet et puis on va voir qui retweet, qui relance, qui fait des blogs. Et puis, et en fait, tout le monde s'est pris au jeu là-dedans, y compris les gens d'AWS. Donc, c'était pas quelqu'un d'AWS, hein, de croire. Donc, y compris les gens d'AWS, notamment le CTO, là, Werner Vogel.
Werner Vogel, oui.
Qui a relancé, c'est le service le plus important depuis le lancement d'AWS. Et donc, il y a plein de gens qui ont écrit plein de trucs avec du support maintenant. Enfin, Quarkus soit pas fait, mais genre Quarkus supporte Infinity Dash, etc., etc. Donc, un énorme effet boule de neige.
Il y a eu une vidéo avec online tutorial, Advance Infinity Dash et tout.
Et Vogel, il aurait pu dire aux gens de se taire.
Voilà. Est-ce que, toi qui es plus dans ce milieu, Guillaume, est-ce que c'était un délire de DevRel qui s'en dit, tiens, ouais, tu vois, un truc, un genre community manager qui dit, allez, on va utiliser le buzz et paf, c'est parti en sucette comme ça, où les gens juste voulaient se lâcher, c'était le pré-été et...
J'aurais peut-être tendance à dire quand même plutôt la deuxième solution. Ouais. Enfin, c'est vrai que moi, je l'aurais pas... Enfin, chacun est différent. Hein. Moi, j'aurais pas forcément fait ça, je sais pas. Mais je me souviens, alors, c'est très, très vieux.
Parce qu'il y avait un Google Internet in the Toilet ou un truc comme ça, là. Mais ça, c'était sorti un 1er avril.
Ouais, non.
Ça faisait partie des...
Enfin, c'était presque un 1er avril, ça, oui.
Il y a eu des bons 1er avril, genre le vrai cloud où on générait des nuages à partir du Moffett Center, là, dans la...
Le vrai cloud, d'accord.
Ah non, il y a eu des trucs assez fous. Mais là, ouais, ça, je sais pas, ça paraît presque trop sérieux pour plaisanter là-dessus. Je sais pas, peut-être que je vieillis, je suis plus drôle du tout. Est-ce que vous souvenez tous les deux?
Pourquoi tu dis que c'est trop sérieux? Parce que c'est...
Que même Werner Vogel
se lance là-dessus.
Je sais pas, ouais. C'est un peu peut-être déplacé. Je sais pas.
Mais si c'était un 1er avril, ça aurait fait flop parce que tout le monde s'attendait à une blague.
Ouais.
Je pense que moi, j'ai vu ça aussi un peu comme une blague et tout le monde, je sais pas, c'est l'effet aussi post-Covid, rigolo.
Ouais, je pense que c'est plus tout ça, ouais. L'atmosphère du moment, etc.
D'accord.
Et est-ce que vous vous souvenez de LOAF, L-O-A-F, il y a au moins 15 ans.
15 printemps. 15 automne.
Ouais, au moins 15 ans, c'était une super tendance sur les implémentations loaf, comme loaf of bread, hein, miche de pain, là, LOAF. Ça vous dit rien du tout?
Ah non.
Non.
Ah ouais, putain, ça avait fait boule de neige aussi, l'espace de quelques semaines, hein, mais et tout le monde y allait de son implémentation de l'off dans différents langages, mais moi je l'avais fait en Groovy. En fait, c'était rien du tout. C'était tu faisais du code vide et tu dis, ah ouais, ça y est, j'ai l'implémentation de l'off.
De l'off.
Enfin, rien à voir avec Nicolo. Nico de l'off. C'était pas la même orthographe non plus. Mais bref, c'était un canular comme ça qu'on avait. Et moi, à l'époque, je l'avais, voilà, j'avais même blogué là-dessus.
Alors, l'off, ça te fait marrer, mais j'ai un fini d'âge.
Alors que là, du coup, c'est plus, ouais, c'est plus sérieux. Je sais pas pourquoi.
Ouais, tu vois, ouais, c'est ça, t'as vieilli, on voit les cheveux
de toute façon. Ouais. Écoute, c'est ça. C'est ça.
Alors, en parlant de blagues,
à propos de
l'outillage, GitHub, alors c'est pas une blague hein, pour le coup, a sorti là, un truc qui s'appelle Copilote, qui est une, en gros, si tu mets de l'intelligence artificielle dans IntelliSense, que tu secoues tout ça, qu'est-ce qui se passe?
Et que tu le passes sur tout le code open source qui existe sur GitHub quand même. Sur
un GitHub, milliard de lignes de code.
Et au-delà, ouais.
Et y compris le code GPL.
Alors attends, on va passer au problème après. Ouais, mais d'abord, l'idée, c'est de dire, on est là, on commence à taper bubble sort string, et paf, le truc, il auto-complète le code entier. Et il dit, ça te va? J'en ai 10 autres à proposer sinon.
Mieux à partir des commentaires. Si tu fais //, ouais. J'aimerais implémenter un bubble sort et bim.
Bim, il te sort le bubble sort.
T'implémentes en dessous.
Donc en fait, l'idée, c'est effectivement du contexte du commentaire qu'on écrit, du contexte qu'il y a dans le fichier présent.
Du nom de la méthode, etc.
Du nom de la méthode, voilà. Il dit, OK, alors l'humain veut ça, et ben je lui sors une implémentation classique dans mon corpus. Et c'est l'intelligence artificielle, donc c'est pas exactement un copier-coller. C'est de toute façon, on sait pas trop ce qui se passe dans ces boîtes-là, mais ça ressort un bout de code qui normalement plante pareil que les autres
et avec les mêmes, les mêmes anti-patterns, etc.
Voir qu'il ne compile pas, puisqu'ils te disent que parfois ça peut ne pas compiler.
D'accord.
Ouais.
Après, il y a d'autres trucs, genre, tiens, je complète, je veux gérer les mimes MIME classiques, et paf, il affiche la liste où il auto-complète un certain nombre de tests.
Ça, c'est sympa, ça.
Et donc, GitHub, l'équipe utilise ça ils ont parlé de 300 ingénieurs qui utilisent ça depuis un certain temps. Et donc, ils ouvrent en bêta limitée aujourd'hui. Ça, c'est sous la forme d'une extension VS Code. Donc j'avais écrit que ça pouvait tourner partout dans les où VS Code tourne, mais dans les FAQ, je crois qu'ils se disaient qu'ils se concentraient sur VS Code lui-même. Donc je à voir un peu le détail. Ils annoncent qu'il y a très peu de copies, de vraiment de copier-coller de code. Ils parlent de 1 pour 1000. Et du coup, le code il est plutôt généré. Et ils annoncent dans leur truc, non, le code vous appartient. C'est comme si vous aviez un stylo et vous l'utilisiez pour écrire des choses. Donc le code vous appartient.
Il parle de la programmation en pair. Hein. Lorsque tu lis la fac,
c'est Jarvis,
au lieu d'être à côté d'un autre dev, tu es à côté de GitHub Copilot qui peut te dire quelques âneries, qui peut un peu t'aider, qui peut... J'ai pas joué avec, mais comme les gens ont beaucoup parlé, j'ai un peu regardé de plus près. Et ça a l'air d'être marrant sur 2-3 cas, le cas que tu cites. C'est tout à fait ça, c'est quand il voit que tu fais un switch case et que tu répètes toujours les mêmes trucs, enfin il montre un cas où effectivement c'est pas le mime type mais c'est un autre truc. Si A alors machin, si B alors bidule, il va te mettre si C D E F G H I J K L.
Z, ouais.
Bon. Voilà. À voir, mais après c'est vous savez comme moi que ça c'est une première version. Si ce truc marche, des lignes de code, on n'en aura pas 1 milliard, mais 5 milliards. C'est de l'intelligence artificielle, donc ça va être de plus en plus smart. Si ce projet est encore là dans 5 ans, ça peut être intéressant comme aide.
Après, quand tu réfléchis, ça fait juste très rapidement ta recherche Google qui arrive sur Stack Overflow, qui copie-colle un truc.
Moi, j'ai quand même
des soucis. Et les tests aussi. Il peut générer des tests.
J'ai quand même des soucis avec ça parce que c'est du code, je sais pas trop d'où il vient, je suis pas sûr que ce qui m'aura produit sera vraiment correct. Si on regarde, ça a tendance aussi à encore plus populariser les anti-patterns. Et j'avais un copain là qui avait tweeté ça à un moment et il disait, bah, tous les exemples qu'il montre sur le site web et tout ça, en fait, à chaque fois, c'est un anti-pattern dans chaque langage qui est montré. Ça partage aussi par un autre truc rigolo, c'est genre tu mets un commentaire, je sais pas quel produit, enfin tu mets API key de je sais pas quoi, de SendGrid, et il va te donner une vraie clé valide de SendGrid parce qu'il y a des gens qui ont commité leur clé. Enfin, il y a quand même plein de soucis comme ça, j'aurais pas vraiment confiance. Et souvent, si ça te génère tout ce code-là, pourquoi ça te génère ce code-là et que ce code-là est pas abstrait dans d'autres librairies ou frameworks ou tu vois que tu pourrais importer et dont t'aurais certainement plus confiance dans des librairies testées utilisées par le plus grand nombre plutôt que par du code copié-collé de enfin pas soi-disant copié-collé mais venant de je ne sais où. Donc moi j'ai beaucoup de mal avec ça. Alors j'ai pas joué avec, je l'ai pas testé. Peut-être que je changerai d'avis quand je le testerai. Mais là, jusqu'à présent, aujourd'hui, j'ai pas confiance. Je me sens pas.
Après, c'est sûr qu'on va avoir.
Encore une fois, ouais.
Non, on a déjà vu hein, des intelligences artificielles qui étaient avec des attaques d'adversaires, en fait. Ouais. Donc, comment fouler l'intelligence artificielle ou comment entraîner l'intelligence artificielle à dire des bêtises. Bah, il y avait le cas fameux de Microsoft où les gens avaient réussi à rendre l'intelligence artificielle en gros nazie.
Ouais.
En pas longtemps, hein, en une demi-journée, donc il savait pas, ou un truc comme ça, ça avait pas duré très longtemps. Donc les attaques de sécurité injectées, enfin c'est un peu de la supply chain attaque, hein, avec un rebond un peu plus compliqué, mais bon, pas forcément décollant. Après, c'est un peu comme l'assistance à la conduite en voiture, donc il faut de la supervision, pas débile, et après, effectivement, si t'as un conducteur débile, ben, ça va faire des trucs débiles derrière. Et il y a effectivement le grand débat, donc la GPL, il y a un point important qui parle de dérivation de code. Le code dérivé d'un code GPL est censé rester GPL. Et donc là, c'est pas hyper clair s'ils ont exclu le code GPL ou LGPL.
Non, il est vraiment inclus. Hein,
il est dedans, d'accord.
Il est inclus, oui.
Et du coup, est-ce que ça veut dire que tout le code généré par l'AI est GPL et du coup que le code que vous allez du coup générer chez vous est LGPL? Après, la dérivation en fonction des... Je sais que nos avocats, en gros, ils disent, bon, ouais, si c'est un 10 lignes de code, on va pas non plus... ça trigger pas. Après, il y a des avocats qui ont des interprétations différentes, donc c'est aller voir votre propre avocat. Mais c'est sûr qu'il y a peut-être des boîtes qui vont dire pas chez nous. Surtout que le code, il est quand même envoyé sur leur serveur, hein, le contexte fichier, pour y réfléchir. Et après, j'ai pas réussi à bien extraire si, en gros, il l'utilisait aussi pour améliorer le truc avec votre code ou s'il gardait juste, si on avait dit oui. En fait, ils disent non, on garde juste les télémétries. Genre, vous avez accepté ou pas accepté la proposition. Mais en même temps, il faut le contexte, il faut assez de contexte. Donc, je ne sais pas s'ils arrivent à le hacher d'une manière non réversible ou si il y a un petit peu de votre code qui redescend. Moi, je m'en fous, mon code est open. Mais
après, tu vois, ce qui est rigolo, c'est qu'ils te disent pour l'instant, hein, mais pour l'instant, ça marche mieux si vous avez des fonctions de petite taille et si vous écrivez en anglais. Et si vos variables font sens, les noms de variables, tu vois, au lieu de mettre i, bah, il faudra mettre.
Ah, bah oui, Toto. Je voulais tester avec Toto, voilà, Tata, Toto, etc.
Donc,
voir ce que ça génère.
Voilà, en fait, il y aura peut-être une manière de coder GitHub Copilot, tu vois.
Ouais.
Mais du coup, ça va favoriser les noms de fonctions et de variables explicites et donc plus lisibles. Ouais. Parce que si tu veux avoir du bon feedback de copilote,
ouais,
t'es obligé.
Voilà. Après, fais-moi
un tri, du un code, bubble tree, connard, tu vas pas. alors, on avait parlé de, je sais plus où on avait parlé, mais Audacity, si, on avait parlé d'Audacity.
Notre outil historique.
Voilà, de mixage du podcast qui avait été la marque déposée avait été rachetée par une boîte qui je me rappelle plus comment elle s'appelle là il y a eu une pull request euh, non voilà une ouais, c'est ça, une proposition en fait qui a été annoncée et qui a fait s'enflammer la communauté que je vais appeler niveau 2, vous allez comprendre pourquoi derrière, qui dit oh là là, ça y est, ils veulent faire du spyware avec Audacity, ils veulent apprendre tout de nous quand on installe le machin, pousser les infos sur un serveur, et du coup des dizaines de forks ont été créés avec les mêmes noms ou des noms différents, et qu'ils ont dit bon, et nous on va enlever le code qui fait du spyware. Alors il se trouve que le code il n'avait pas été mis, donc c'était un fork préemptif sans le savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, c'est toujours sensible hein, ce genre de sujet-là, mais ça avait déjà été discuté dans la communauté. Ils ont fait une proposition avec une pull request, les gens ont discuté en disant bah nous on n'est pas confiants avec ceci, ceci, cela. Et donc, il y a eu des échanges. Et après, la communauté des gens qui participent au call avait dit, bah, OK, ça nous paraît bien. Ce truc-là, c'est un bon compromis. Go. Et en fait, c'est cette V2, en fait, qui a été redécouverte par, je sais plus quel site ou quelle personne et qui est partie un peu en sucette. Voilà. Donc, pour info, ils récupèrent l'OS, le PI, enfin, via l'IP, le CPU, les erreurs et les reports de crash. Et qu'on peut activer ou pas, d'ailleurs, je crois, l'aéroport de crash. Et puis, par contre, ils avaient mis des mots légaux du genre si les autorités compétentes de la loi nous demandent des infos, ben, on les donnera, mais comme toute entité qui vit dans un pays. Hein. Et puis, ils avaient parlé de la limite des 13 ans pour éviter des restrictions légales aux US. Mais quand on limite des choses, la GPL, elle est pas d'accord, parce que la limitation est anti-open source, en fait, enfin, dans la distribution. Donc, il y a aussi un peu des débats là-dessus. En tout cas, la 3.0.2, qui est celle que moi j'ai installée il n'y a pas si longtemps, n'a pas la collection des données. Et il y a un feedback initial qui était, au début, ils poussaient tout dans Google Analytics pour faire leur analyse avec des, je sais pas comment on appelle ça, là, les tags ou les events, voilà, l'event API. Et du coup, ils sont passés à un hébergement propre, mais ça faisait partie de la première interaction avec la communauté où les gens n'étaient pas hyper confiants d'aller donner ça à un des gros mastodontes. Donc voilà, ils ont dit OK, on va avoir notre propre serveur. Et par défaut, donc ce truc-là est désactivé. Alors par défaut, c'est subtil. C'est si on prend le projet, qu'on le compile nous-mêmes, par défaut, c'est désactivé. Si vous prenez les binaires qui sont distribués par cette boîte, ben, par défaut, c'est activé. Et du coup, les distributions Linux n'ont pas à se soucier parce qu'en général, ils recompilent from scratch. Par contre, si vous prenez le binaire et que vous l'installez sous votre Mac directement sans faire la compile, ben, vous aurez cette récupération de données, en tout cas par défaut, j'imagine, sur un opt-out disponible. OK. Voilà, enfin bref, aucun rapport avec les devs, mais...
mais c'est notre outil.
Mais oui. Alors, la rubrique préférée d'Antonio.
La sécurité. Sécurité.
Je sais pas si vous l'aviez vu celle-là, cette news. Donc LinkedIn qui s'était déjà fait bouffer, fait leaker 50 ou 70% de ses données, a atteint maintenant le niveau de 92% de ses utilisateurs.
700 millions d'utilisateurs.
Et donc c'était pas une attaque du genre je vais aller te siphonner ta base de données, c'est plutôt oh, bah, ton API a un trou, donc je vais l'utiliser pour aller siphonner petit à petit les 700 millions qui sont vendus à l'époque où j'ai lu l'article sur le dark web.
Ouais.
Et donc il y a l'email, les noms, le téléphone, l'adresse physique, etc. Et un truc intéressant, il y a le salaire inféré. Et donc ça, limite, je me suis dit ah ça serait cool d'aller voir quel est le salaire que LinkedIn dit je devrais avoir.
Ah.
Voilà. Ouais, et donc alors le salaire. Ben, j'ai pas.
Ah, il faut aller sur le dark web.
Ouais, et ouais sur le dark web. Bon.
D'accord.
Voilà. Donc, alors c'est plus que changer votre mot de passe, mais ben vérifier. Oui, bon déjà, ne réutilisez pas le même mot de passe sur tous vos comptes, y compris surtout ceux de LinkedIn. Et puis, ben voilà, vous avez, je sais pas, voilà, qui va utiliser quoi, votre téléphone ou pas, mais bon, rien n'est privé. Alors, loi société et organisation. On a alors on a deux épisodes d'interviews qui ont été enregistrés. Le premier, vous en avez parlé, c'est sur l'architecture, l'infrastructure de Doctolib et les les javaïstes ou ex-javaïstes qu'on connaît, donc qui sont avec qui on a échangé. Et puis il y en a un autre sur le cloud de confiance. Donc on avait déjà eu le Crowdcat de Laurent Dauguin, et puis j'ai discuté avec Quentin Adam ou Quentin Adam selon.
C'est bien. Adam bien.
Quentin Adam bien. Voilà, pour discuter du cloud de confiance et puis l'historique cloud souverain, cloud de confiance, d'où ça vient, où ça va, pourquoi des gens sont contents, d'autres sont pas contents. Donc je pense qu'on va faire Doctolib genre fin juillet et puis fin août à la rentrée l'interview de cloud de confiance. Mais donc sur ce sujet-là du cloud de confiance et de faire tourner en gros, les services de l'État et les services français sur des trucs de licence américaine. Donc, Tariq Rim a fait une lettre ouverte.
Alors, un e-book ouvert, puisqu'il fait une vingtaine de pages. Et si vous avez suivi effectivement l'interview, Tariq était venu parler à Devox il y a quelques années, donc vous pouvez aussi retrouver la vidéo. J'ai plus la bio de Tariq, hein, mais... il avait fait partie, alors je vais pas dire du ministère de Fleur Pellerin, mais bon, bref.
Non, de conseil.
De conseil. Hein. Donc c'est quelqu'un
de. Conseil scientifique, mais c'était l'équivalent d'un conseil scientifique, mais pour le. Ouais, c'est quoi du coup le détail? Conseil numérique, voilà.
Ouais, merci. Conseil numérique.
Ouais.
Fut un temps, ouais.
Donc voilà, il est pas mal impliqué là-dedans. Et il vient de la tech, hein, vraiment. Tariq, c'est un tech à la base.
Il a fait NetVibe. Silicon Valley,
le fameux NetVibe. Et voilà, donc il a. Alors a priori, ce sera pas le dernier, puisque il vient de publier cet e-book qui a le numéro 1, et il dit que s'il y a le numéro 1, c'est parce qu'il y en aura d'autres. Donc voilà, il est accessible à tous, donc vous pouvez le télécharger. Et c'est pas mal parce qu'il fait un petit historique aussi. C'est toujours bien d'avoir un peu d'historique sur la France. Le rôle de la technique en France, donc il parle de la célèbre phrase là d'Alcatel qui dit qu'une bonne industrie, une bonne boîte n'a pas d'industrie. Donc vraiment, la France délaisse la technicité. Donc il parle de tout cet historique. Aujourd'hui, on est en train de parler de data health hub. On doit héberger des données. La France a besoin d'héberger des données. Et effectivement, comme l'historique a fait que la France est un peu dépouillée de ce technicien, et il le rappelle, beaucoup d'entre eux sont partis vivre aux US. Donc il y a eu tout un exode aussi, hein. Donc beaucoup de Français sont partis dans des boîtes américaines. Il parle de l'iPhone, etc., etc. Bon, il se trouve qu'aujourd'hui, Bercy, hein, il parle d'une réunion qui a eu lieu, au mois de mai, et Bercy présente la nouvelle stratégie cloud de la France. Hein, et à part OVH Cloud, il y a tous les autres, Google, Amazon, Microsoft. Donc voilà, c'est un peu, c'est très bien écrit, c'est facile à lire. Il y a toute une partie historique, il y a une partie factuelle. C'est pas du bashing. Il le dit lui-même. Il a lui-même utilisé les services d'Amazon. C'est très très bien fait. Si les gens utilisent Google, Amazon et Microsoft, c'est que techniquement, bien sûr, c'est supérieur à certains clouds. Bref. Mais il parle de tous les problèmes liés à la France se fait quand même. Le titre du PDF, c'est « Lettre à ceux qui veulent faire tourner la France sur l'ordinateur de quelqu'un d'autre ». Et il prend cette phrase d'un autre informaticien, j'ai oublié son nom, des années 90. Voilà, donc c'est un document très factuel sur où en est le cloud d'aujourd'hui en France, qu'est-ce que le gouvernement est en train de mettre en place et qu'est-ce qui va se passer dans l'avenir. Il n'est pas hyper optimiste parce qu'il dit oui, il y a quelques players français et européens. Il parle d'un cloud allemand dont j'ai oublié le nom. Mais voilà, il dit la frappe technologique de Google, Amazon et Microsoft, bien sûr, mais il y a aussi vachement de lobby. C'est des boîtes qui ont une force de frappe commerciale énorme. Donc voilà. Lisez-le si le sujet vous intéresse.
Donc lisez-le et ça sera un super complément avec l'interview donc que j'ai fait sur Quentin où on touche un peu ces sujets-là avec, disons, des contraintes qu'on a de la loi, des doctrines européennes de concurrence libre et non faussée, ou je sais plus exactement la doctrine, mais voilà, et de l'impact que ça a en termes de renforcement des gros, en fait, des gros acteurs, qui en l'occurrence là sont américains.
Les fameux gammes.
D'ailleurs, pas que américains, parce que dans le. Comment ça s'appelle cette. Dans Gaïa, là, maintenant, il y a plein de gens, y compris, je crois, Alibaba. Voilà. Voilà. En tout cas, du coup, ça sera un bon complément, une bonne interview de rentrée après que vous ayez lu ce fascicule. Est-ce que vous avez un outil de l'épisode? Paf, là, hop.
Même pas.
Conférence de l'épisode d'Evox France le 29, 30 septembre et 1er octobre en physique et bim.
Ou pas.
Ouais, ça dépend de la quatrième vague.
Imagine. Et le Delta là. Oh.
Alors on a blogué, hein, dessus, on a tweeté. On communiquera. On est obligé, comme c'est un événement de plus de 1000 personnes, on est obligé de vous faire entrer avec un pass sanitaire. Alors là, le gouvernement vient de dire que maintenant, il faudra le pass même pour aller au restaurant. Mais nous, c'était la fameuse loi qui était encore en vigueur. Hein. C'est un événement de plus de 1000 personnes, donc c'est pass sanitaire, sinon rien.
Donc voilà. Même pour faire pipi, il faut garder le slip.
Pipi, non, parce que c'est dedans, mais fumer ta clope dehors et re-rentrer, ouais.
Ça va être sympa les queues à l'entrée pour checker tous les QR codes.
De toute façon, il y avait le. Oui, enfin, c'est comme l'équivalent des queues du premier jour où tu demandes ton billet là, en gros.
Oui, à part que là, c'est tous les moments, c'est chaque matin. Chaque matin, et dès que tu sors et dès que tu rentres. Après, le palais des congrès, ils nous ont dit que bon, voilà, ils avaient mille et une zapettes et que ça scannait très très vite. Bon, bref, à voir. Mais. Voilà, sachez
du
que
coup, ça sera le truc
à Devox avec
européen
un pass.
Ou le truc français là. Ta zapette, elle sait lire les deux ou pas? Parce que dans l'appli, tous avec le Covid là.
Tous anti-Covid.
Donc quand tu rajoutes ton QR code si tu as fini ton parcours de vaccination, maintenant tu peux le convertir en version européenne. Mais du coup, tu te dis. Est-ce que du coup je vais me faire tège parce que les gens ont paniqué vers le lecteur européen?
Oh, après je pense que alors Devox France c'est plutôt franco-français, hein, mais le Palais des Congrès font plein de congrès internationaux, donc je pense qu'ils auront les mille et une zapettes qui feront que ça fonctionnera. Voilà.
Ok, et eh bon. Bien donc pas d'oublier l'épisode, c'était la conférence du jour.
Joyeux automne,
sauf si vous avez été au Riviera Dev version plage.
Ah oui, ça avait l'air sympa.
Parce qu'il faisait très beau.
Ouais.
Il y avait de la crème solaire, des chapeaux, de l'eau. C'était top. Rendez-vous, donc, vous avez dit prochain épisode d'Octolib, l'interview. Et puis, je ne sais pas si on fera un épisode en août de nouvelles ou si on prendra tranquille une petite pause.
Les vacances.
Probablement une petite pause.
Je crois
pause.
Qu'on va prendre tranquille.
Attends, il y en a qui sont en vacances, donc peut-être qu'ils reviennent, tu vois. Ouais. À voir, on va leur poser la question. Mais bon, n'y comptez pas. On va faire ça comme ça. Allez, bah, la bise à tous.
Ciao.
Le thème musical est le thème numéro 3, gracieusement offert par podcastthème.com, podcastthemes.com. Le logo a été dessiné par Nicolas Martignol, alias le Touilleur Express, www.touilleur-express.fr.